Nous voulons maintenant rapidement aller dans la parole de Dieu. Je vous ai retenu déjà longtemps hier. C'était dans l'église du frère Suleiman, l'assemblée du frère Suleiman, mais je me suis réjoui de ce que le Seigneur nous a accordé sur cette expression, le son. Nous parlions d'un son incertain qui, dans ce temps, retentit. Et ensuite, alors que nous avons eu fini de parler de ce sujet, nous avons parlé du ton clair et certain que nous avons entendu, du son clair et certain que nous avons entendu. Et je crois que Dieu va nous aider à entendre ce ton particulier, ce son particulier dans ce temps. Nous remarquons que le son clair de sa parole est toujours le ton certain, c'est le ton de l'évangile. Et l'évangile ne peut pas venir en parole seulement, mais par la preuve et la démonstration du Saint-Esprit, de l'Esprit et de la puissance. Et ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, le mouvement et le vent tumultueux, c'était quelque chose de certain. La vie était liée à cela. La vie de Dieu, la vie divine pour l'Église au commencement a été manifestée. Est-ce que vous pouvez tous m'entendre bien? J'ai repris certaines idées de Paul Rieger. Vous savez comment est-ce qu'il a prêché? Il a enlevé sa veste pendant qu'il parlait et il a fait des mouvements sur la plateforme. Il a utilisé ses deux mains en le faisant et parfois même il s'éloignait du micro. Et ici je vois le frère Kollertz est assis dans l'assemblée ici. Si quelqu'un ne croit pas que aussi des méthodistes ont reçu le Saint-Esprit, il y en a un ici qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Un prédicateur méthodiste du Kentucky qui a reçu le baptême du Saint-Esprit et maintenant est un serviteur de Dieu humble. Nous sommes heureux de ce que le Saint-Esprit est là pour tous ceux qui veulent le recevoir. Tous ceux qui sont réellement prêts à venir sur le fondement que Dieu a préparé pour cela, c'est là pour les baptistes, les presbytériens, les catholiques, les méthodistes, pour tout, pour les protestants, pour les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes, pour tous. La puissance du Saint-Esprit est là. Bon, si vous voulez pour un moment courber vos têtes pour la prière, nous pouvons le faire maintenant. Avant de prier avec des têtes courbées, avez-vous peut-être une requête particulière? Est-ce que vous voulez alors lever vos mains si cela est le cas? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse bénir chacun individuellement et à vous accorder ce dont vous priez. Père Céleste, nous nous approchons de ton trône de la grâce, pas du trône de ta justice, car là, nous ne pourrons pas subsister. Nous ne demandons pas de la justice, sinon nous périrons. Nous demandons ta grâce et ta miséricorde. Et nous venons, car c'est toi qui nous as dit que nous pouvons venir. Nous avons la promesse que nous recevons selon ce que nous te demandons. Nous venons dans la foi et nous ne doutons pas. Et nous te demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit, ce que vous faites en parole et en action, faites-le tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a dit alors qu'il était sur cette terre, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, je le ferai. Nous sommes certains que nous recevrons ce que nous t'avons demandé, car nous venons dans la foi. Avec tout ce qui est dans notre cœur, nous croyons et nous te demandons au nom de Jésus, nous te demandons ta grâce et ta miséricorde et ton courage et du courage pour que nous puissions être entourés de toutes ces choses ce soir. Accorde-nous une grande portion de ton esprit dans notre cœur, tel que nous en avons besoin, accorde la foi à ceux qui ont levé leurs mains et accorde-leur selon les requêtes qui sont dans leur cœur, que de tout notre cœur nous puissions croire que tu exauceras nos prières et nos requêtes. Nous te remettons cette réunion et nous nous remettons nous-mêmes à toi et fais ce que tu veux parmi nous et en nous, car nous nous approchons de la prédication de ta parole. Que le Saint-Esprit puisse venir et lui-même oindre ta parole et l'implanter dans notre cœur. Nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Vous qui vous écrivez les versets bibliques, je vous demande d'ouvrir avec moi, et cela dans Deutéronome, le chapitre 2, à partir du verset 3. Ici, nous avons le texte. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne, ou bien tourné autour de cette montagne, tournez-vous vers le nord. J'aime enseigner sur l'Ancien Testament, car l'Ancien Testament est une image du Nouveau. Pendant que nous nous approchons de cette sainte parole, ce soir, de ce texte, toute sa parole est sainte et est véritable. Et je voudrais tirer un parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament, des jours passés et du jour dans lequel nous sommes aujourd'hui, du temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Comme très peu Israël a cru, aurait pu croire, si quelqu'un leur aurait dit qu'ils sont encore éloignés du pays de la promesse de 40 ans, alors qu'ils avaient chanté, loué, exalté et joué, alors qu'ils s'étaient réjouis et qu'ils étaient passés par la mer Rouge. De l'autre côté de la mer Rouge, ils n'auraient pas pu croire si on leur avait dit cela. Si quelqu'un leur avait dit, vous êtes maintenant sortis de la tribulation et de la maison de la servitude. Dieu vous a délivré et vous a fait traverser la mer Rouge. C'était en fait quelques jours. C'était le chemin, le pays de la promesse. C'était seulement éloigné à quelques jours d'où il se tenait. Mais c'était à cause de leur incrédulité qu'ils sont restés 40 ans dans le désert. Ils ont été retenus 40 ans. Et nos pères sont revenus il y a à peu près 40 ans ou bien un peu plus dans le même endroit ou bien dans la même situation. Israël avait reçu un grand réveil. Ils étaient en chemin vers le pays de la promesse que Dieu leur avait accordé par un serment tel qu'il avait déjà annoncé à Abraham, et que ils allaient aller dans le pays de la promesse avec la promesse de Dieu et les bénédictions de Dieu. Le jour de la délivrance était venu, l'exode avait eu lieu et Dieu avait fait tout ce qui était nécessaire, tout ce qu'il avait promis. Maintenant, ils étaient sur le chemin vers le pays de la promesse. C'était seulement en fait éloigné à quelques kilomètres de l'Égypte. Si vous regardez sur la carte géographique, je crois que j'aurais pu entreprendre en 5 jours à pied ce trajet de l'Égypte au pays de la promesse. Si on considère le point de la mer Rouge jusqu'au point où ils traversaient le Jourdain pour entrer dans le pays. Seulement un petit voyage en fait, de quelques jours. Et malgré tout, à cause de leur incrédulité, ils sont restés 40 ans retenus dans le désert. Bon, ça, c'est une chose sur laquelle nous devons penser très au sérieux. Très peu auraient pu croire que l'eau allait jaillir du désert et que la montagne de Sinaï et Kadesh Barnéa et que toutes ces différentes stations-là qui se tenaient encore, qui étaient encore devant eux, en fait, et serait eu seulement c'était seulement quelques jours pour arriver au pays. Et ils ne pouvaient pas croire, malgré qu'ils avaient vu tant de choses faites par Dieu et que Dieu avait fait. Ils étaient sûrs d'avoir été dans la volonté de Dieu. Comme nos pères aussi, il y a quelques années, aussi étaient certains. Ils étaient dans la volonté de Dieu, c'est vrai. Mais ensuite, ils ont fait une très grave erreur. La plus grande erreur qu'Israël a faite était... Quand ils ont rejeté la grâce et exigé la loi, ils ont fait la plus grande erreur dans Exode 19. C'est la plus grande erreur que Israël a faite. Exode 19. Dieu avait fait une alliance avec Abraham et c'était seulement par grâce, sans condition. Mais, quoique la grâce avait tout préparé pour eux, avait accordé un délivreur, un sauveur, un libérateur et un agneau qui avait été sacrifié pour eux, préparé pour eux. Et le plus grand réveil qu'ils avaient jamais eu auparavant. Et malgré tout, ils n'étaient pas satisfaits avec tout ce que Dieu avait fait, avec l'exode qui avait eu lieu, etc. Et avec la promesse du pays. Ils voulaient quelque chose sur lequel ils pourraient se disputer. Ils voulaient quelque chose pour pouvoir encore, par leur influence, avoir le contrôle. C'est encore aujourd'hui comme ça. C'était comme ça il y a 40 ans d'ici. Avec le mouvement, le réveil pentecôtiste. La grâce leur avait accordé et restitué les dons bibliques. Leur avait restitué les bénédictions de l'église primitive. Ils sont sortis du chaos dans lequel ils existaient. Et ils sont sortis des dénominations formelles, formalistes et des organisations. Dieu avait accordé le plus grand réveil qui existait. Il a infusé son Saint-Esprit comme dans l'église primitive. Ils étaient en esprit. Ils chantaient et dansaient dans l'esprit. C'était un grand réveil. Comme très peu, ils savaient aussi que toutes ces années-là se tiendraient encore devant eux avant vraiment d'entrer dans l'accomplissement, dans l'achèvement. Mais tel que c'était avec Israël, c'est comme ça encore avec nous maintenant spirituellement. Nous sommes la semence d'Abraham. La distance d'Abraham, comme un Israélite n'est pas celui qu'il est selon la chair, selon l'extérieur, mais qu'il est selon l'esprit, selon l'intérieur. Si nous sommes morts en Christ, nous sommes héritiers selon la promesse que Dieu a donnée par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Abraham n'était pas un juif. Abraham était quelqu'un des nations, était un païen. Il est venu du pays des Chaldiens, il est venu de la ville Ur, et il était un païen. Bon. Reconnaissez, ils n'étaient pas éloignés, ils n'étaient pas loin du pays de la promesse, mais ils ont manqué, ils ont refusé d'entrer en possession de ce que Dieu avait préparé pour eux. Et ils voulaient eux-mêmes ajouter quelque chose, eux-mêmes d'eux-mêmes faire quelque chose. Et c'est comme ça que nous faisons toujours de nouveau nos erreurs. Quand nous essayons d'ajouter quelque chose à ce que Dieu a fait et ce que Dieu a dit, nous devons laisser les choses telles qu'il les a données dans les Écritures. Il y a depuis plus de 2000 années, ça a été ainsi. On a toujours essayé, toujours de nouveau, d'ajouter quelque chose. Même le Notre Père, ils ont essayé de transformer le Notre Père, de l'améliorer, de le formuler de manière différente. Vous ne pouvez pas le faire. Car ce qu'il dit est parfait depuis le commencement des chats. Vous ne pouvez pas encore le rendre parfait, plus parfait qu'il est. Il est déjà parfait. Et Dieu est le seul qui est parfait. Et ce qui vient de Dieu ne peut pas être amélioré et rendu parfait. C'est déjà parfait. Et si nous pensons que Dieu a besoin de nous, de notre aide, il n'a pas besoin de notre aide. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Vous dites, bien sûr, il doit utiliser un homme pour prêcher sa parole. Oui, mais est-ce que Jean-Baptiste n'a pas dit, Dieu est capable de ces pierres-là de faire des enfants d'Abraham? Bien sûr qu'il est le créateur. Il peut faire ce qu'il veut, car il est Dieu. Bon. Nous trouvons ici, nous constatons que toutes ces choses, ils avaient préparé la Pâque, l'agneau, le sacrifice. Dieu leur avait accordé du haut des cieux en tant que nourriture et préparé du haut des cieux en tant que nourriture. La manne, il leur a donné le rocher duquel ils pouvaient boire et être abreuvés. Il a préparé tout pour eux. Il a pris soin. Et le serpent des reins qui était élevé pour qu'ils puissent regarder à lui quand ils étaient mordus. Et malgré toutes ces choses-là, ils voulaient encore la loi. Ils voulaient une expérience théologique. Ils voulaient des doctrines, des interprétations, pour qu'ils aient quelque chose à pouvoir dire et à organiser et à faire quelque chose d'eux-mêmes. Ça, c'est encore la même chose qui s'est passée avec le mouvement pentecôtiste, avec le réveil qui a eu lieu il y a 40 ans d'ici, qui a commencé il y a 40 ans d'ici. Dieu les avait appelés à sortir. Dieu a utilisé un homme en Californie, qui était un nègre, qui voyait d'un seul œil, qui était manchot. Et il lui a donné l'expérience du baptême authentique du Saint-Esprit. Et c'est de là que ça s'est transporté sur la rue de la Souza. Et c'est de là que le centre missionnaire a commencé. Et c'est de là-bas que cette expérience, ce réveil s'est propagé dans toute la nation. Et ce réveil est passé de nation en nation. Jusqu'à que l'expérience de la Pentecôte et le mouvement et le réveil pentecôtiste a été connu dans le monde entier. Quelle bénédiction ça a été. Dieu avait préparé toutes choses par sa grâce. Beaucoup de ces hommes-là ne pouvaient même pas écrire leur nom. Il y en a même qui venaient à la réunion, au culte, avec le chariot et le cheval. Et certaines femmes étaient en train encore de s'occuper des enfants. Et pendant que l'homme allait prêcher, ils étaient en train de tricoter et de préparer le pain. On s'est moqué d'eux. On les a appelés de jouer un rôle de saint, etc. Et on les a calomniés et dit toutes sortes de choses sur eux. Parfois même, on voulait même... Certains d'eux, on voulait les amener en prison. Parce qu'on a, ou bien dans des maisons de fous. Car on a dit, vous n'êtes pas normal. Et il y en a d'autres qui étaient pendant la nuit en prison. Qu'est-ce que c'était? Dieu avait accordé et préparé le plus grand réveil. C'était le plus grand réveil que cette nation avait connu. Jamais il y aura encore un tel réveil comme le réveil pentecôtiste, c'est vrai. Wesley ne l'avait pas. Moody ne l'avait pas. Ferguson ne l'avait pas. Calvin Knox, tous ces grands réformateurs ne l'avaient pas. N'avaient pas eu un grand réveil comme celui de la Pentecôte. C'était le plus grand réveil que la terre a connu depuis la Pentecôte. Maintenant, bien sûr que dans les dernières années, ils ont eu beaucoup de réveils, de conversions. Et l'église pentecôtiste a plus de convertis seuls que toutes les autres communautés et églises ensemble. Mais où est-ce qu'ils ont fait leur erreur? Comme Israël aussi. Où est-ce qu'ils ont fait leurs erreurs? Où est-ce que nous avons fait nos erreurs? Non, nous ne pouvions pas laisser les choses telles que c'était et laisser le Saint-Esprit vraiment agir, parler. Non, nous voulions faire quelque chose nous-mêmes parce que l'incrédulité, le manque de confiance en Dieu s'est infiltré. Si Israël était allé de l'avant, tel que Dieu lui le conduisait, en 2 semaines, ils auraient été sans fatigue dans le pays de la promesse. Mais ils devaient murmurer, ils devaient se plaindre, ils devaient calomnier, ils devaient parler mal, ils devaient apporter une falsification et un substitut. Et si le mouvement pentecôtiste était aussi resté dans l'esprit, tel que Dieu avait déterminé les choses, car Dieu était dans ce réveil, il était dans ce mouvement, c'était certain. Alors aujourd'hui, nous aurions déjà été dans le millénium. Vous voyez, ce qui s'est passé avec Israël a été un exemple. Ce qui s'est passé pour eux, se passe avec eux, se passe avec nous. Ça, c'est écrit dans 1 Corinthiens 10. Ils ne pouvaient pas se laissait seulement conduire par le Saint-Esprit. Il voulait faire quelque chose pour avoir un nom et fonder des organisations. Ils ont formé les choses. Et quelqu'un disait ensuite, j'ai reçu la révélation qu'on doit baptiser au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'aller de l'avant et de reconnaître et d'ajouter les autres vérités bibliques, après avoir reconnu qu'on doit baptiser au nom de Saint-Jésus-Christ, ils ont fait une organisation et maintenant, il y a beaucoup d'organisations qui ont apparu. Et l'un dit, Jésus revient sur un cheval blanc. L'autre dit, il revient sur une nuée blanche. Qu'est-ce que ça me dérange? Ce qui est important, c'est qu'il dit, reviennent et que nous soyons prêts. Pourquoi est-ce que vous ne vous laissez pas tous ces différents? Si le nom de Jésus qui a été ajouté à ce mouvement, vous aurez dû savoir que chaque plante que mon Père Céleste n'a pas plantée ne sera déchirée, sera déterrée. Pourquoi est-ce que vous inquiétez? Si la chose vient de Dieu, elle demeurera. Si elle ne vient pas de Dieu, elle ne demeurera pas. Laissez les choses arrêter de parler mal et de critiquer. Ce n'est pas vous qui avez planté, vous n'avez pas besoin de déraciner non plus. Bien sûr, nous avons aujourd'hui les unitaires, les trinitaires, nous les avons tous, les unitaires, et l'un se dispute et se querelle avec l'autre. Ici, des petits groupes, des divisions, ici, là, et chacun parle mal de l'autre. Et nous avons, chacun dit, nous sommes dans le juste, venez à nous, et nous avons ceci, nous avons cela. Des groupes partout. Nous sommes en fait pas divisés et séparés. Nous ne devions pas l'être. Nous devions être un en tant que croyants. Ayant la même espérance vivante, une seule parole, un même Christ, un seul baptême, un seul Dieu. Nous voulons ensemble aller de l'avant en tant que combattants de Christ. Nous aimer les uns les autres. Nous allons de l'avant comme dans la guerre. Pas dans des organisations, mais sous la croix réunie, au pied du Seigneur. Et nous allons de l'avant avec Jésus. C'est ainsi que ça a toujours été. Les hommes ont toujours apporter leur contribution à l'œuvre de Dieu. Ils voulaient le faire de leur manière. La même chose a eu lieu avec Israël. Ils voulaient déjà avoir un roi. Dieu était leur roi. Dieu voulait toujours avoir la première place parmi son peuple et diriger toutes choses. Et l'homme veut aussi se lever et dire, nous sommes quelque chose. Il dit ici, oui, ici, nous avons ici le directeur général, nous avons le etc. et tous ces grands titres pour élever quelqu'un à qui on regarde. Et ensuite, ils se disputent, etc. Même avant que quelqu'un monte là, il y a même des combats entre eux, chacun veut avoir la première place. Mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que vous pouvez avoir de la foi si vous regardez à la personne et jugez les uns parmi les autres? Bien sûr qu'on dit, oui, l'ancien, c'est lui qui a quelque chose à dire. Ou bien l'autre dit, nous devons prêter l'oreille à lui, etc. Oui, le frère tel et tel. Ils essayent d'être quelque chose dans leur propre organisation. Cela n'est pas correct. Vous devez avoir la foi en Dieu. Vous devez abandonner tout pour réellement croire la véritable parole de Dieu. C'est peut-être raison que vous êtes pentecôtiste, parce que vous avez expérimenté vraiment l'expérience de la Pentecôte. Vous êtes sorti tel qu'Israël était sorti et vous avez été appelé à sortir pour être séparé tel qu'Israël avait été appelé à sortir et a été séparé pour former l'église du Dieu vivant et était l'église du Dieu vivant. Vous voyez? Vous avez été aussi appelé à sortir. C'est pour former l'église. Mais qu'est-ce que vous avez fait? De nouveau, vous avez aussi disputé. Vous vous êtes disputé. Vous voulez être comme eux. Israël voulait un roi. Samuel le prophète les a convoqués et a dit, écoutez, je veux vous dire quelque chose. Peut-être un peu de cette manière. Est-ce que vous voulez être comme les Philistins? Est-ce que vous voulez être comme les autres nations du monde? Ils ont leur roi, c'est sûr, mais vous, votre roi, c'est Dieu, le Seigneur. Chaque vrai prophète dirait la même chose. Il n'apportera rien d'autre si ce n'est que de montrer le chemin de Dieu, de montrer la parole de Dieu. Laissez Dieu être votre roi. C'est lui qui veut vous conduire, vous diriger. Mais il voulait être comme les autres nations, malgré tout. Le vieux Samuel s'est levé et il a dit, Dieu est votre roi. Dieu est notre roi. N'essayez pas d'imiter les autres peuples et le monde. Laissez-les aller comme ils veulent. S'ils veulent avoir un roi, s'ils veulent avoir leur grand titre, etc. Et tout d'un style et Hollywood et du monde, laissez-les aller. Mais ce n'est pas le programme de Dieu pour les enfants de Dieu. Non. Ce n'est pas le programme de Dieu pour les enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin de ces choses. Nous avons besoin de Dieu en tant que roi. Laissez-les avoir leur roi, même pas vous. Pour vous, ce n'est pas déterminé. Bon. Nous considérons ce qui s'est passé. Nous observons ce qui s'est passé. Le prophète disait à Israël, Dieu m'a envoyé à vous en tant que prophète. Est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se serait pas accompli? Ça c'est 1 Samuel 12. Imaginez-vous, réfléchissez un peu. Il disait, est-ce que je vous ai déjà demandé de l'argent? Est-ce que j'ai déjà exigé de l'argent de vous? Je reçois maintenant une lettre d'un frère de l'Arizona où un grand conducteur avait une assemblée et dans l'église, c'est une petite assemblée, un petit groupe. Et ça avait coûté à l'église 6 000 $ pour qu'il puisse seulement venir. Et encore 10 000 $ pour annoncer sa venue dans la radio, etc. Et bien, frères et sœurs, par la radio, quand nous pensons à cela, ce que 6 000 $ pourrait faire dans le champ missionnaire pour aider un frère, peut-être là-bas en Afrique, ou bien des frères sans chaussures, ou bien en Inde, ou bien quelque part, qui sont démunis, pour qu'ils puissent aller prêcher la parole de Dieu. Et ici, des milliers de dollars qui ont été investis dans des bâtiments. Je sais que nous avons besoin des bâtiments, mais pas un bâtiment en marbre. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu où une grande organisation se trouvait. Où ils avaient un grand bâtiment qui bâtissait de 6 millions de dollars. Et pendant ce temps, des missionnaires ont faim dans le champ missionnaire. Et nous disons que Jésus revient bientôt. Où est-ce que vous pouvez encore retrouver ce qui est correct et juste devant Dieu dans ces choses? Je ne comprends pas. Votre vie, vos actions prouvent ce que vous êtes. Jésus disait, si vous faites quelque chose et dites, vous dites quelque chose et faites autre chose. C'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que vous pouvez dire quelque chose et dans votre cœur penser différemment? Non, vos actions parlent plus fort que vos paroles. Si nous croyons que Jésus revient, pourquoi est-ce que nous faisons ces choses alors? Pourquoi est-ce que nous pouvons encore critiquer et parler de ces choses? Nous avons plus de temps pour ça. Où vous dites,
est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose qui ne se serait pas accompli? Non, ils ont dit, tout ce que tu as dit, c'est accompli. Alors, il a demandé, quand est-ce que j'ai pris votre argent? Ils ont dit, non, jamais. Alors, si vous voulez vous conformer à ce chef présent et vous comporter comme ce monde, si vous voulez avoir un autre roi en dehors de Jéhovah, votre roi, alors vous serez comme ces nations-là. Oui, ils veulent avoir quelqu'un avec qui ils peuvent parler, à qui ils peuvent regarder, quelqu'un qui se tient devant eux. Oh, frère, si vous êtes assez spirituel, alors Dieu va parler avec vous, il répondra à vos questions. Mais vous ne devez pas rester sans naître d'en haut. D'abord, il faut que la nouvelle naissance ait lieu. C'est ainsi que vous serez enseigné par Dieu. Nous pensons à la nouvelle naissance, nous pensons au baptême du Saint-Esprit. Comment est-ce que vous êtes venu ici dans ce monde? Vous êtes venu dans cette vie par la naissance naturelle. Ce n'était pas possible autrement. Vous êtes ici maintenant, vous pouvez ici vivre, vous avez ici tout dans le domaine naturel. Donc, il y a eu une naissance naturelle qui a eu lieu. C'est ainsi aussi avec la naissance spirituelle. Si vous n'êtes pas né d'en haut, né de nouveau, vous ne savez, vous ne comprenez pas les choses du royaume de Dieu et ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un dirait, il y a quelqu'un qui avait un grand magasin et il serait allé, par exemple, au cimetière pour aller chercher tous les cadavres là et pour les embaucher de mon magasin. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait qu'il n'est pas normal, il est fou. Il faut qu'il aille chercher ceux qui vivent, qui sont vivants. Il ne peut pas aller chercher des cadavres pour travailler dans son magasin. C'est ainsi ici. Nous avons le nom que nous vivons, mais tout est mort. Nous avons le nom que nous vivons, mais tout est mort. Vous ne pouvez pas chercher les vivants et chez les morts dans le cimetière. Non, vous devez aller là où Dieu les a rendus vivants. Ça ne sert à rien, vous pouvez aller prêcher l'évangile dans le cimetière. Ça ne servira à rien, ils resteront des cadavres. Alors, si nous disons que le Seigneur revient et que nous devons aller sur la rue, dans la rue et rendre témoignage de sa venue, comment ils pourront le faire s'ils sont morts? Nous devons naître d'en haut, nous devons recevoir la vie de Dieu, nous devons revenir au principe de la vie chrétienne, revenir au baptême Saint-Esprit, revenir à la nouvelle naissance, revenir aux prières, au rayon de prière, revenir au feu de Dieu, bien sûr. Vous dites, j'appartiens à cette église, j'appartiens à ceci. Es-tu un chrétien? Oui, j'appartiens à ce groupe. Ça, c'est quelque chose. C'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ici? Ce que j'essaie de dire. Certains de vous qui disent que vous appartenez à des dénominations, à ceci, à cela, réfléchissez à ce que vous faites. Je sais que vous êtes de bons frères, comme ce jeune qui est venu. Et qui avait mangé une tranche de viande. Et ensuite, il y avait un vieux chat qui s'était approché alors qu'il était en train de manger. Et qui a. Et alors la mère a dit, écoute, fais attention, hein, fais attention au chat, sinon, si tu ne fais pas attention, il va te prendre ta viande. Hein. Alors, cela s'est passé. Vous voyez, on doit revenir réellement au poids de l'évangile. On veut placer les choses où elles ont leur place, où elles avaient leur place dans l'église primitive. Et l'église a fait la plus grande erreur. Alors qu'elle a fait la première organisation, qu'est-ce qu'elles ont fait? Bien sûr, on a manifesté certaines choses, etc. Si vous êtes des véritables croyants, alors Dieu nous a promis que il plante et il laisse arroser. Ne vous inquiétez pas, ça va porter son fruit. Car chaque plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Mais ils doivent le faire, malgré tout. Bon, nous voyons que après toutes les bénédictions qui sont venues sur Israël, ils voulaient malgré tout, comme cela est écrit dans Exode chapitre 19, ils voulaient la loi. Ils voulaient quelque chose. Ils voulaient faire quelque chose d'eux-mêmes. Ils voulaient observer le sabbat. Ils voulaient observer certaines prescriptions qu'ils pourraient, d'après lesquelles ils pourraient se diriger, etc. Et si vous pouvez faire une chose pour vous sauver, où reste alors la grâce? La loi, c'est ce que vous faites. Mais Dieu vous a prouvé sa grâce en vous. Vous prouve sa grâce en vous sauvant. Comme je l'ai souvent dit. Vous voyez? Comment est-ce que Dieu a conduit toutes ces choses? Et dans son amour, nous faisons ce qu'il nous ordonne de faire. Mais nous ne le faisons pas pour être sauvés. Nous le faisons parce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la loi qui nous conserve. C'est l'amour qui nous conserve. C'est peut-être parce que j'aime Dieu. Pas parce que j'ai peur qu'il m'enverrait en enfer si je ne l'aimais pas. Non. Je l'aime tellement que je veux faire ce qui est agréable à ses yeux. Je ne veux jamais blesser Dieu. Je veux lui être agréable. Pourquoi? Parce que je l'aime. Et si femmes et hommes arrivent dans cet état où ils sont poussés à la prière, pas qu'on soit obligé de. On les oblige à prier. Tu sais, aujourd'hui, c'est de nouveau la réunion de prière et ils préfèrent peut-être rester à la maison. Non. Pas de vous sentir obligé. Mais si c'est le Seigneur qu'est votre joie et que votre joie c'est le Seigneur et que vous avez tout trouvé en lui, alors vous serez toujours à la réunion. Toujours. Là où l'église se réunit. Il y a 40 ans d'ici, l'église était dans une meilleure disposition pour rencontrer le Seigneur qu'aujourd'hui. Ils vivaient plus proche de Dieu qu'aujourd'hui. Ils avaient plus de l'esprit de Dieu parmi eux comme aujourd'hui, que aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes séparés des autres, mis à part. Et on dit, oh, ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas justes, mais nous, nous avons ce qui est correct. Hein? On se sépare des autres, on fait quelque chose d'à côté, hein? des différences dans, dans l'enseignement, etc. Oh, ils sont dans l'erreur, mais nous, nous sommes. Dieu, ce n'est pas ça qui est important devant Dieu, comme vous, vous le pensez. Paul disait, si je connaissais tous les mystères, j'avais toute la foi et que je vendrais tout ce que j'ai aux pauvres et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce que ça c'est l'amour de se mettre à côté, faire quelque chose à côté et puis critiquer les autres? Nous sommes mélangés dans nos propres affaires. Si vous essayez de vous diviser, de vous séparer, ça prouve déjà que vous n'avez pas la foi. J'appartiens à ce groupe. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. J'ai mon assemblée, j'ai ma réunion. Est-ce que tous n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tous ne parlent pas la langue? Est-ce que tous ces groupes-là n'ont pas aussi des choses bonnes et des choses mauvaises? Comme c'était, ça a toujours été. Et Dieu a donné à celui-ci le Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ceux qui croient et qui l'ont reçu et qui croient toute sa parole. Et qui marchent dans sa parole. Mais il voulait faire quelque chose. D'eux-mêmes, comme les méthodistes, comme les presbytériens, comme les catholiques. Ils veulent faire une organisation. Vous voyez? C'est comme ça que Martin Luther a déjà manqué, pas lui, mais ceux qui le suivaient. John Wesley n'a pas commencé. C'était pas ces hommes, mais après ces hommes-là, ils ont tout. Ils avaient toujours conservé le réveil pur. Mais après que ces hommes soient partis, le peuple de Dieu a organisé. C'est comme ça que c'était. Dans tous les différents âges. D'abord, ils ont reconnu que c'est Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Ils sont restés là. Et ensuite, le deuxième groupe. Et ensuite, il a dit, nous devons faire ceci, nous devons faire cela, nous devons infiltrer cela, etc., etc. Toujours, ils veulent faire quelque chose d'eux-mêmes. Et nous faisons un groupe à côté, nous nous séparons des autres. Et on pense, hein, et c'est ce frère-là qui va nous conduire, etc., etc. Bien sûr. Et c'est de nouveau une organisation qu'on est en train de faire comme l'autre. Comme tous les autres font, comme toutes les autres organisations. Ils veulent une loi, ils veulent des prescriptions. Ils veulent quelque chose qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes. Ils veulent devenir des grandes personnes, des œuvres qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Non, Dieu, lui, il prépare les œuvres dans lesquelles nous marchons. Si nous sommes dans la foi, il va, comme il est écrit dans Ephésiens 2, verset 10, c'est Dieu qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Aujourd'hui, on fait tout pour réunir de l'argent pour payer le prédicateur. On a des jeux de loterie, etc. Dans les réunions. Vous voyez, les gens veulent faire quelque chose. On a des jeux dans les réunions. Et ils ont toujours comme ça essayé de produire quelque chose d'eux-mêmes. Dieu va prendre soin de son peuple et de son œuvre. Il va prendre soin de ses prédicateurs comme il a pris soin de ses lévites. Et c'est ainsi que le peuple donne la dîme. C'est pas comme ça une parole de l'Ancien Testament. Car dans le Nouveau Testament, c'est aussi comme ça. Dieu donne un ordre et cela reste ainsi. Comme avec le sang. Quelqu'un disait, je veux te dire, nous faisons ceci, nous faisons cela, nous conservons cela. Nous avons ceci, nous avons cet enseignement, etc. Et nous montrons le chemin qui mène à Christ. Vous combattez avec le vent, il y a seulement un seul chemin à Christ, c'est par le sang. Dieu ne peut pas changer sa façon de faire. Nous venons à Christ par le sang versé sur la croix à Golgotha. Vous voyez, il n'y a pas un autre chemin. C'est là que nos péchés ont été ôtés. Et c'est seulement comme ça que l'Esprit pourra... Et la vie pourront revenir sur nous. C'est ainsi que nous devenons des fils et des filles de Dieu. Et que nous sommes une nouvelle créature en Christ, notre Seigneur. Alors nous avons les mêmes expériences qu'ils ont eues au commencement. Nous vivons la même vie. Nous avons les mêmes œuvres que les premiers chrétiens. Comme il avait au commencement. Oui. Exode, chapitre 19. 11 jours auraient suffi. 11 jours de Sinaï à Kadesh Barnea. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont de nouveau là-bas fait une très grande erreur. Et à Kadesh, ils ont douté la parole de Dieu. De ce temps, ils suivaient longtemps le chemin de Dieu. Mais là, à Kadesh, ils ont fait leur plus grande erreur parce qu'ils n'ont pas pu croire que Dieu aurait pu accomplir sa parole. Bien sûr, ils ont essayé de faire leur organisation. Ils ont essayé d'envoyer 12 espions. Et il y en a deux qui ont revenu qui ont ramené la preuve que c'était un bon pays. Josué et Caleb ont porté sur leurs épaules cette grappe de raisin. Et elles étaient très bonnes. Ils ont dit, oh, c'est quelque chose de merveilleux. Mais quand ils ont eu des réunions, alors les autres déjà ont donné leur prédication. Ils ont dit, non, nous ne pourrons pas nous emparer de ce pays. Nous sommes comme des petits insectes devant eux. Là-bas, il y a les évêques et les cardinaux, etc. Tous ces grands hommes vus, etc. Énormes. Qui sommes-nous? Nous n'avons même pas terminé le primaire. Et là, il y a les docteurs de la théologie, etc. Qu'est-ce que nous voulons faire avec eux? Qu'est-ce que nous pouvons faire là-bas? Ce n'était pas le cas. Dieu avait promis de les amener dans ce pays. L'instruction n'avait rien à voir à faire avec ça. Dieu avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et celui qui veut venir, qu'il vienne recevoir la même expérience de la Pentecôte. Ça n'a pas d'importance. Si vous ne pouvez pas faire la différence entre les différents cafés, par exemple. Ce qui est important, c'est d'expérimenter Dieu dans ses promesses. Regardez Pierre et Jean là-bas, à la porte du temple. Alors que cet homme qui était paralysé depuis sa naissance, la Bible dit qu'ils étaient illettrés, ils étaient sans instruction. Et malgré tout, on devait prêter l'oreille à ce qu'ils disaient. Parce qu'ils étaient avec Jésus, ils avaient été avec Jésus et les miracles, les signes, les prodiges avaient lieu par eux. Et ça, c'est ce qui se passe avec chaque personne qui a réellement reçu le baptême de cet esprit, l'expérience de la Pentecôte. Il ne s'agit pas des diplômes que vous avez. Ça n'a rien à voir à faire avec cela. Non. Que les hommes puissent savoir que vous vivez avec Jésus, qu'ils puissent reconnaître par votre marche, que votre feu brûle du feu de Dieu, que votre âme brûle du feu de Dieu, et que vous avez reçu l'infusion du baptême de cet esprit. Oh, regardez, aujourd'hui, quand on voit comment est-ce que les baptistes, comment les églises marchent, j'ai quitté les baptistes pour aller au pentecôtiste parce que je savais qu'ils avaient quelque chose. Mais maintenant, je vois que les pentecôtistes sont gravement organisés comme les baptistes aussi. Et maintenant, il y a des disputes parmi eux, des divisions et des groupes. Et maintenant, nous regardons autour de nous. Autrefois, ils avaient entrepris un voyage de 11 jours. Un moment d'où ils avaient reçu la théologie jusqu'au désastre total, c'est-à-dire que jusqu'à l'incrédulité totale. Et il y en a deux qui sont revenus qui avaient la preuve. Le mouvement pentecôtiste, il y a 50 ans d'ici, ils avaient vraiment une bonne preuve que le pays est là. Ils avaient les dons qui avaient été restitués. Mais c'était pas la seule preuve du temps de Caleb et Josué. Il n'y avait pas seulement les grappes de raisin en tant que preuve. Il y avait tout un pays en tant que preuve. Mais les pentecôtistes se sont satisfaits d'avoir le parler en langue, d'avoir les dons. Et c'est comme ça que l'église pentecôtiste, ils se satisfait d'avoir les grains de raisin. Ils disent seulement à Actes des Apôtres 2, verset 4, etc. Ils se satisfait d'avoir les raisins, c'est tout. Alors qu'il y a tout le pays qui est là. Et ces raisins qu'ils ont là, qui sont déjà pourris depuis longtemps, et personne ne peut maintenant les manger. Et vous savez que votre doctrine là est fausse depuis longtemps. Tout est lié maintenant dans des organisations. Il y a tout un pays qui est là. Mais il y a une chose. Moi, ils ne pourront jamais me mettre dans une cage. Je suis libre de prêcher comme la Bible dit. Personne ne pourra m'empêcher de le faire. Tant que Dieu me permet de vivre, je vais me tenir là avec la vérité de la parole de Dieu pour prêcher la parole de Dieu. Oui. Je ne le dis pas contre les hommes dans les organisations, mais contre leur système. Vous voyez. La loi leur a pas donné de grâce, non plus. La loi ne leur a pas amené dans le pays de la promesse, non plus. Non, reconnaissez que ce n'est pas la loi qui les a amenés dans le pays de la promesse. Ils disaient, nous ne pouvons pas le faire. Vous, méthodistes, vous, baptistes, vous tous, vous êtes arrivés jusqu'à la limite du pays. Et ensuite, vous avez dit, je ne peux pas entrer. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les méthodistes vont dire? Qu'est-ce que leurs organisations vont dire? Qu'est-ce que les autres organisations vont dire? Quand je vais parler en langue, et quelqu'un va dire, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ils vont me faire sortir de l'organisation. Vous voyez? La même chose. Laissez-moi vous dire la chose de cette manière. Hébreux 6 et Hébreux 10. Vous pouvez lire dans ces deux chapitres. Nous qui avons déjà été une fois éclairés et qui avons participé au Saint-Esprit et au monde à venir et goûté ces bénédictions et qui ont reçu la connaissance de la vérité et ensuite se détournent et qui sont tombés et crucifiés pour leur par le Fils de Dieu et l'exode à la pneumonie. Ils ne pourront pas être régénérés. Si un homme est appelé à être prédicateur, bien sûr, le Seigneur l'appelle. Ça, c'est Hébreux 6 à partir du verset 4. Bon, il se repentit de ses péchés. Il se repent de ses péchés. Il est sauvé, il devient un croyant. Et peut-être qu'il ne peut pas encore être délivré de la cigarette. Et il a encore des choses du monde dans ses pensées, le désir dans son cœur, etc. Et ensuite, il va à l'autel. Il demande à Dieu, sanctifie-moi. Le deuxième pas de la grâce. Et il regarde dans le pays de la promesse. Et il arrive à la limite. Et ensuite, il ne peut plus continuer à marcher. Alors, il doit traverser le Jourdain, c'est tout. Ou alors rester. Vous voyez? Il a été éclairé. Il a participé. Il a eu part au Saint-Esprit. Il a goûté la bonne parole de Dieu. Christ est la parole, la vérité. Comment est-ce que nous entrons en Christ? Pas par une organisation, non. Par quoi? Par un baptême d'eau, non. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Méthodistes, baptistes, presbytériens, luthériens, unitaires, trinitaires, que vous soyez. Par un seul esprit, tous sont baptisés dans un seul corps. Nous avons été baptisés dans un seul corps. Mais, celui qui a reçu la connaissance, il regarde dans le pays, à la limite, il dit, oh, c'est merveilleux. Mais, si je reçois cela, alors les dénominations vont me mettre dehors. C'est pas possible. Les dénominations ne croient pas à ces choses. Qu'est-ce que mes parents vont dire? Mon église va dire? Qu'est-ce que mon entourage va dire? Alors le président de l'église va venir et quelques membres avec lui et ils vont me dire, si tu fais ceci et cela, on te sortira de notre organisation. Si tu vas écouter celui-ci et celui-là, alors on te fera sortir de l'organisation. Oh, qu'est-ce qui se passe avec de telles personnes, avec de tels prédicateurs? Ils doivent revenir à Golgotha pour que quelque chose avec eux se passe. Vous devez être convaincu que c'est la parole de Dieu et que la puissance de Dieu vient sur vous, le Saint-Esprit vous remplit. Et alors vous vous tenez là avec Christ. Alléluia. Un homme va devoir respecter son prochain. S'il voit que quelqu'un est un homme qui se tient pour ce qui est juste, pour ce qui est vrai, on doit ôter son chapeau devant des personnes qui se tiennent pour ce qu'ils ont reconnu de la Bible. Ils se tiennent là dans tous les principes, pour ce qui est juste. Ils prennent cela comme un principe à respecter. Nous devons avoir du respect devant des personnes qui ont pris leur position devant Dieu pour sa parole. Avoir du respect, bien sûr. C'est ainsi que ça doit être avec Dieu. Si il trouve une personne à qui il peut faire confiance, à qui il peut révéler sa parole, alors que cette personne puisse se tenir dans ce que Dieu lui a révélé, et qu'il puisse se tenir là sur l'enseignement de la Bible et le prouver au peuple de Dieu. Alors vous prenez la parole de Dieu, vous prenez chaque écriture, telle qu'elle est écrite, et Dieu est obligé directement de venir et de confirmer sa parole avec des signes, des prodiges, des miracles, comme il a promis de le faire. Et qui le fera? pas stopper aux premières choses et s'arrêter. Non, non. Il y a tellement de choses. Nous devons continuer à aller. C'est tout un pays, pas seulement des raisins, tout un pays de, rempli de lait et de miel. Tout nous appartient, pas seulement les grappes de raisins. Tout nous appartient. Nous arrêtons là où nous nous satisfaisons aux grappes des raisins. Il dit, oh, j'ai reçu cet esprit, je parle la langue. Oh, c'est bien, bon.
Mais il y en a quelques-uns qui vont plus loin. Pourquoi est-ce que vous restez là, arrêtés? Vous vous tenez là, arrêtés, vous n'allez pas plus loin. Vous voyez, participer, ils ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Et s'ils tombent, ils repartent dans les choses anciennes, baptisme, méthodiste, ils repartent dans l'esprit religieux, dans les interprétations, etc. Comme les autres. Soit, c'est pas possible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. C'est plus possible. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Regardez, il l'expose à l'ignominie. Comme dans l'âge de l'Odyssée, le Fils de l'homme est à l'extérieur et il est à l'extérieur du réveil pentecôtiste et il frappe à la porte, il veut entrer. Regardez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, sondez dans l'écriture. Sondez si le temps dans lequel nous vivons n'est pas comparable à ce qui a été dit, à ce qui est dit. J'ai encore un avertissement pour vous. Jim Sikerian l'a documenté. Et vous savez, je l'ai déjà dit, là-bas, à l'ONU, quelqu'un avait parlé en langue française. Et après, la traduction, donc l'interprétation est venue par quelqu'un qui ne connaît même pas le français. Et il lui a été dit, tu as choisi le chemin le plus difficile. C'est pour cette raison qu'une grande rémunération t'attend au ciel. Et je l'ai écrit ici. Le frère Damon Sukarian. Et par un notaire, il a laissé confirmer. Et cet homme qui était un baptiste et qui subitement a été baptisé de cet esprit, cette tenue-là. Et il parlait en langue et quelqu'un d'autre a interprété. Et là-bas, à Los Angeles. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, c'est Hollywood dans l'église. Hollywood, le monde. Aujourd'hui, on dit, donne 25 dollars et je vais prier pour toi. Ou bien, donne une partie de ta récolte, sinon ta récolte va s'abîmer, va pourrir. Il s'agit toujours de l'offrande. Quand est-ce que dans l'église primitive, ou bien, depuis quand est-ce que les pentecôtistes sont derrière l'argent? Mais bien aimés frères, dans les jours de la Bible, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient et ils l'ont partagé parmi eux. Et aujourd'hui, on doit toujours avoir le dernier modèle des voitures, sinon on n'est pas spirituel. C'est une abomination, c'est du péché. Et si on ne peut pas construire un palais comme église, comme les autres, alors on pense que ce n'est pas correct. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un meilleur bâtiment, d'une meilleure église. Même si nous étions une mission pauvre, même si nous réunissions en bas d'un arbre, ce dont nous avons besoin, c'est de la même puissance, du même feu, des mêmes expériences que les croyants avaient au commencement. Nous sommes dans un état terrible et nous ne nous en rendons même pas compte. L'église, qu'est-ce que c'est? Nous sommes divisés. Dans une ville, l'un va là, l'autre va dans ce groupe. Des grandes organisations. Chacun est dans ses propres pensées. Et chacun pense avoir raison. Et cela montre en symbole ce qui s'est passé autrefois. C'est pas, on refait la même chose aujourd'hui. C'est pas pour rien que c'est écrit que ces choses se sont passées comme exemple pour nous, que nous sommes arrivés à la fin. Je pense que le retour du Christ est déjà mûr. Mais Dieu use de patience. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Il use de patience. Il attend. Il retient la colère pour que quelqu'un puisse, les derniers puissent encore être ajoutés et entrer et être conduits à la repentance. Comme c'était du temps de Noé. C'est comme ça que ce sera dans le jour du Fils de l'homme. Dieu était du temps de Noé, patient. Il voit l'église dans cet état actuel. Qu'est-ce que c'est? Au lieu de venir dans l'état biblique et correct devant Dieu, on continue dans notre façon de faire. On devrait déjà être en train de servir le Seigneur dans ce qui lui est agréable, comme autrefois. Mais ils ont fait les mêmes erreurs. Et nous faisons les mêmes erreurs qu'ils ont fait autrefois. Et autrefois, à Kadesh Barnea, après 40 ans, à cause de l'incrédulité, ils se sont organisés. Les gens, qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites, mais quelle organisation? Mais tous, sans exception, laquelle des organisations, tous, séparez-vous, mon peuple. Vous dites, oui, mais est-ce que je peux être dans l'église pentecôtiste, est-ce que je peux être dans cette église et recevoir le baptême de cet esprit? Bien sûr, Dieu vous accorde son esprit. Ça n'a pas d'importance d'où vous venez. Ce qui est important, c'est que vous soyez devenu un enfant de Dieu, né d'en haut par l'esprit, et devenir enfant de Dieu, né d'en haut, né de Dieu. Et devenir enfant de Dieu, obéissant, et Dieu vous accorde le baptême de cet esprit, de toutes les différentes organisations. Comme des charbons, nous serons mis ensemble. Nous devons être, pour pouvoir faire un feu, il faut être mis ensemble. On ne laisse pas un charbon seul, ici et là. Le feu brûle vraiment bien quand les charbons sont mis ensemble. Venez ensemble, réunissez ensemble. Et c'est là dans l'amour. Ce n'est pas correct de faire les choses différemment. Ça, c'est ça. C'est l'amour qui retient le charbon et les pierres ensemble dans la maison de Dieu. C'est ainsi que le monde saura que vous me suivez, que vous êtes mes disciples. Quand vous aurez l'amour les uns pour les autres, si vous vous aimez comme je vous aimais. Pas en formant un groupe là. Non, le monde saura que vous êtes mes disciples quand vous aurez l'amour. C'est comme ça que le monde saura que vous êtes des chrétiens, si vous êtes des frères et des sœurs, si l'amour est parmi vous. Et nous ne pouvons pas prétendre demeurer dans la parole de Dieu si nous ne nous aimons pas les uns les autres. C'est le signe du christianisme, l'amour les uns pour les autres. Si nous nous aimons comme Christ nous a aimés, Dieu achèvera son œuvre parmi nous d'une manière puissante. C'est l'amour de Dieu. C'est le plan de Dieu. Nous voulons aller marcher comme Christ a marché, comme c'est écrit dans Éphésiens 5. Dans l'amour. Vous voyez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés jusqu'à la limite. Et ils disaient, mais c'est impossible. C'est ainsi que Hébreux dit, non, n'est-ce pas? Ils ont dit que c'était impossible pour ceux qui ont goûté et en plus qui sont tombés. C'est impossible d'être renouvelés. Ils ont goûté la puissance du siècle à venir. Ils sont venus à la connaissance de la vérité, hein. Ils ont regardé dans le pays et ont dit, je ne peux pas rentrer. Ils l'ont fait autrefois. Et qu'est-ce qui se passe? Tous sont morts dans le désert. Si nous pensons que Dieu doit nous répondre parce que nous sommes ainsi et ainsi, nous sommes celui-ci et celui-ci. Et si l'église baptiste, par exemple, et l'église luthérienne et trinitaire, etc. Et ils pensent que Dieu doit les exaucer. Alors vous êtes dans l'erreur. Le peuple d'Israël était 40 ans dans le désert. C'est ainsi qu'il a fait avec l'église, avec le mouvement, le réveil pentecôtiste. Ils ont dit, nous avons la preuve du Saint-Esprit, nous avons le parler en langue, nous avons la guérison divine. Bien sûr qu'il avait aussi, Israël avait aussi la guérison, ils avaient aussi le serpent des reins, etc. Oui, ils disent, mais frère, madame, nous avons ceci, nous avons cela. Eux aussi, Israël, ils ont eu tout cela. Mais ils sont restés à l'extérieur du pays de la promesse par ces 40 ans. Il ne s'agit pas de ce qu'ils avaient fait. Dieu les avait bénis, bien sûr. C'est-à-dire que c'est écrit dans 1 Corinthiens 10. Ils avaient une bonne récolte. Ils avaient leur famille. Ils étaient là-bas. Et ils étaient bénis. Et les choses allaient bien pour eux. Et certains de nos pentecôtistes, bien sûr, ils ont des bâtiments qui coûtent des millions de dollars et tout est bien. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une église et il y a un frère qui était assis ici, était là-bas présent. Et je parlais un soir alors que j'étais revenu de la Jamaïque et que j'avais, pour les hommes d'affaires chrétiens, parlé. Justement, cette personne là-bas, ces hommes-là à qui j'essaie d'apporter le message et de montrer que par les hommes d'affaires chrétiens, les églises ont été rassemblées pour que tous puissent venir. Et quand le pasteur ne vient pas, alors ses membres viennent pour écouter. Et j'ai essayé d'apporter le message du Seigneur à ces personnes, car je voyais en eux mes frères. Et je prêchais assez dur et cru. Et il y a un certain dignitaire, conducteur qui s'est levé et qui a dit, frère Branham, je voudrais te dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec vous, homme d'affaires? Vous êtes ici dans l'église, dans la réunion, et vous avez seulement rendu témoignage là-bas en Jamaïque. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et ensuite, Dieu m'a béni, j'ai fait terrestrement ceci, j'ai atteint terrestrement ceci et cela. Et J'avais avant une petite voiture, maintenant une grande voiture. Et j'avais pas de maison, maintenant il m'a donné une maison. Ils ont rendu témoignage. Ces gens-là ne veulent pas entendre ça. C'est pas ça l'évangile. Ça, c'est contre la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Ils l'ont donné aux pauvres. Et ça, c'est ce que vous aurez dû leur dire au lieu de d'énumérer tout ce que vous avez. Eux, ils marchent avec Jésus et ils demeurent avec lui, bien sûr. Et ce conducteur-là, ce soir, s'est levé donc et a dit, frère Branham, je voudrais maintenant te dire quelque chose. Ça, c'est là où les pentecôtistes autrofois, ou bien l'église primitive a... Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais c'est justement l'erreur que l'église primitive a fait, de vendre tout ce qu'ils avaient. Moi, je ne vous demande pas de vendre votre maison et de vendre ce que vous avez. Je vous dis simplement de suivre Christ. Et je lui ai dit, mais écoute, frère, est-ce qu'ils n'étaient pas conduits par cet esprit en faisant cela? Il a dit, mais est-ce que tu penses que le Saint-Esprit les conduirait à faire une erreur? J'ai dit, mais je peux te prouver par les Écritures qu'ils n'ont fait aucune erreur en faisant cela, en vendant ce qu'ils avaient. Et toi, si tu veux me prouver le contraire, alors fais-le. Vous voyez, ces personnes-là n'avaient pas où ils pouvaient aller. Ils ont vendu tout et ils allaient ici et là. Et Dieu voulait qu'ils le fassent. C'est ainsi que le message a été propagé dans le pays, partout, parce que partout, ils ont voyagé et ils n'avaient plus de maison dans laquelle ils auraient pu rester. C'était la volonté de Dieu autrefois. Vous voyez, ils ne pouvaient plus revenir. Ils avaient... plus où demeurer. Oh, nous les Américains, nous sommes devenus gras, nous avons tout ce dont nous avons besoin, nous voulons même plus écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Vous voyez, ils ne le veulent plus. La chose est la suivante. Vous savez que le sceau du Saint-Esprit doit être appliqué dans ces derniers jours. Et les Saintes Écritures disent que ceux qui là ont trouvé la grâce de Dieu, qui se lamentent et qui pleurent à cause de toutes ces abominations qui sont dans la ville, comme c'est écrit dans Ézéchiel chapitre 9. Qui de vous pleure et crie à cause de l'état de la ville dans laquelle il se trouve et de l'état même de l'église? Est-ce que je peux en trouver 5 dans ma ville? Est-ce que vous pouvez en trouver dans votre ville, dans votre assemblée, 5, ne serait-ce que 5, qui se lamentent à cause de l'état de la ville? Quelqu'un peut lever la main? Vous connaissez quelqu'un? Est-ce que vous l'êtes vous-même? Alors levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lamente et qui pleure à cause de ce qui se passe dans l'église du Seigneur? Personne, vous voyez, personne ne lève les mains. Nous avons besoin du zèle, du feu de l'esprit. L'église doit revenir à son état primitif. Nous sommes gras aujourd'hui, nous sommes gros, nous vivons, nous nous comportons comme le monde, nous faisons comme le monde, nous parlons comme le monde, nous allons dans des choses du monde et dans des dénominations, dans des organisations. Dans des bâtiments, tout est là. Et ils disent Alléluia. Hein? Comme Dimitri Plessis a dit, nous sommes maintenant, comme il a dit, maintenant il y a des grands enfants, il n'y a plus des enfants. Mais Dieu n'a pas de grands enfants. Dieu a seulement des enfants. Dieu n'est pas grand-père, Dieu est père. Mais qu'est-ce que c'est? Nous apportons nos enfants, ils viennent et ils disent ah, il appartient à l'église pentecôtiste, c'est bien, il est devenu pentecôtiste. Qu'est-ce que cela a à voir avec la Bible? Un fils de Dieu est dans le feu. Il est plein de feu. Il ne regarde pas quelqu'un. Il se tient là et rend témoignage. Rien ne peut le retenir. Il va de l'avant avec Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Il suit l'Esprit. Et comme dans le prophète Ézéchiel, c'est écrit, des chariots avec les roues et etc. Et les êtres vivants. Vous voyez, c'était des êtres vivants, pas des êtres morts. Soyez attentifs. Ils demeuraient là. Mais ils avaient leur famille là-bas. Ils étaient bénis. Dieu prenait soin d'eux. Même leurs chaussures ne s'usaient pas. Ils avaient un temps merveilleux. Dieu avait pris soin d'eux terrestrement, etc. Et spirituellement aussi. Mais jusqu'à quand est-ce qu'ils sont restés là? La Bible dit qu'ils sont restés là jusqu'à que tous les vieux combattants soient morts. C'est écrit dans Deutéronome, les premiers chapitres. Tout ce qu'on dit, gloire à Dieu, nous appartenons à l'église pentecôtiste, nous appartenons ici, nous appartenons là. Alléluia, gloire à Dieu. Les autres sont déjà, tous les autres sont dans l'erreur. C'est nous sommes ceux
qui sont fondées sur la prophétie, et ceci et cela. Et ils se sont disputés sur certains enseignements les uns avec les autres jusqu'à qu'ils soient morts. C'est ainsi. Maintenant, qu'est-ce que c'est répété? Ils sont morts. Chaque organisation est morte. Et je peux prendre chaque théologien qui pense qu'il est un historien. Peut-être qu'il y en a deux ce soir parmi nous, l'un des deux des meilleurs, des historiens dans cette ville. Et montrez-moi, où est-ce que Dieu, par un réveil surnaturel, aurait agi quand l'Église s'est organisée, s'était organisée? Où est-ce que des choses surnaturelles ont lieu? Où est-ce que ce que Dieu fait a lieu? Pas jamais après qu'il se soit organisé, car il meurt et il ne se tient plus, il ne se relève plus. Montrez-moi, où est-ce qu'une organisation de nouveau se serait relevée? Non, il meurt dès qu'il s'organise. C'est comme ça que s'est passé avec l'Église pentecôtiste. Ces vieux combattants, ils disaient, oui, nous avons quelque chose de nouveau. Et ils ont dit, alléluia. Et ils sont restés là. Ils se sont arrêtés là, à des alléluia. Les uns se diffèrent des autres. Mais ils sont tous morts. Je ne peux plus retenir mes paroles. Je dois prononcer la parole que je reçois de la part du Seigneur. Ils sont tous morts. Et ils sont restés. Et il nous est dit de ne pas suivre le même exemple. Tout est mort. Qu'est-ce que c'était? Il y en a un qui est venu un jour de parmi eux. Et il a dit, mais ce n'est pas tout ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient toujours sur le jour par jour sur le même fondement. Toujours de nouveau. Et ils tournaient autour de la même montagne, jour au jour. Lisez dans Deutéronome 2, verset 3. Toujours, il répétait Actes apôtres 2, verset 4, Actes apôtres 2, verset 4, etc., etc. Recevez cet esprit. Parlez en langue. Louez soit Dieu. Et il pense que c'est tout. Tout de nouveau, la même chose. Tout de nouveau, la même chose. Bien sûr que c'est en ordre. Mais pourquoi est-ce que vous restez toujours là? Pourquoi est-ce que vous tournez là autour du même verset et vous n'allez pas de l'avant? Est-ce que c'est tout? Ils disent, oh gloire à Dieu, j'appartiens à l'église pentecôtiste, j'appartiens à ceci. Toujours la même chose. Baptiste, méthodiste, catholique, luthérien, tout ce qu'ils ont déjà fait. Et tous sont morts sur leur chemin. Vous voyez? Je sais que c'est difficile. Vous ne pouvez pas saisir ces choses. Mais je sais que c'est la vérité. Ce que les églises ont besoin aujourd'hui. Ce que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'une dose bien serrée de l'Évangile original. Que tout leur soit ôté. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la puissance du Saint-Esprit, de revenir à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Car dans l'Ancien Testament, c'était un symbole du Nouveau Testament. 40 ans plus tard, encore, Actes apôtres 2, verset 4. Actes apôtres 2, verset 4. Après 40 ans, toujours la même chose, toujours la même chose. Loué soit Dieu, ils disent, alléluia, disent-ils. Ils sont déjà morts et raides, presque. Oui, ils disent, nous avons ceci, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, et Dieu est avec nous, etc. Oh, vous pauvres, pauvres rétrogrades, qu'est-ce qui se passe avec vous? Est-ce que vous ne vous ressentez pas misérable? Comment est-ce que vous pourrez aller où le Seigneur, où l'Esprit veut vous conduire? Vos organisations ne vous le permettent pas. Vous avez comme ça mis un point dans ce que vous devez croire. Nous avons mis une virgule. Car c'est pas seulement, il n'y a pas seulement ce que vous croyez qui est là. Il y a encore plus à croire. John Smith, Wesley, Campbell, beaucoup ont cru plusieurs choses et ont mis un point dans ce qu'ils croyaient au lieu d'être ouvert pour plus et aller de l'avant, mort dans les chemins dans lesquels ils sont allés, au lieu maintenant d'aller dans les plénitudes de la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le vieux Josué est venu, car lui, il croyait chaque parole. Il disait, tout est vrai, bien sûr. Il a ses promesses qu'il a retenues, mais ce n'est pas tout.
Nous avons les raisins, les grappes de raisins, mais ce n'est pas tout. Là, il y a tout un pays plein de fruits. Pourquoi est-ce que nous restons ici, toujours autour de cette montagne? Est-ce que nous ne pouvons pas aller de l'avant? Amen. L'église pentecôtiste est assise dans les organisations depuis 40 ans. Déjà, c'est déjà assez longtemps. Frère, nous voulons maintenant nous lever et sortir et aller de l'avant. Lisez Deutéronome 1 verset 20, à partir du verset 21 et Deutéronome 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14 encore. Dieu nous a donné des promesses. Il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez. Les mêmes bénédictions, la même puissance, la même vie, la même puissance. Tout est là. Tout est devenu et resté la même. Mais qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, vous devez venir au Jourdain. Mourir à vous-même et à vos doctrines et à vos façons de voir et à vos pensées. Et à tout ce qui est propre. Rappelez-vous de cela. Il disait, vous faites que tourner autour de cette montagne. Vous êtes arrivé jusqu'à la limite du pays, jusqu'à la frontière du pays. Vous savez que c'était la montagne qui appartenait à... C'était dans la montagne de Séir qui appartenait à Ésaü. Et ils ont dit, si vous voulez passer par là, vous devez payer, etc., etc. Ne restez pas là à la frontière, car je ne pourrais pas vous bénir. Vous devez passer par la frontière. Méthodiste, baptiste, Deutéronome 2, verset 8, elle appartenait à Ésaü. Vous savez, dans chaque réveil, il y a toujours des jumeaux qui ont apparu. Ça n'a pas d'importance. Où et quand? Comme Ésaü et Jacob. Les deux étaient des fils d'Isaac. Ésaü, un homme du désert. Il était religieux. Il prenait soin de son père. Il était un homme bien. Mais Jacob, il avait le discernement. Il savait que le droit de naître signifie tout pour lui. Et il a fait tout pour le recevoir. Ça, c'est l'homme spirituel aujourd'hui. Vous avez votre Ésaü qui fait tout ce qu'il peut. Ésaü qui fait tout ce qu'il peut. Mais il ne va pas assez de l'avant. Il reste quelque part. Mais Jacob, il ne s'est pas retenu à ce que Ésaü faisait. Il est allé de l'avant. Nous ne devons pas aussi nous retenir à ce que les gens font. Nous devons aller de l'avant. Et vous, est-ce que vous ne reconnaissez pas ce qui s'est passé pendant ces 40 ans? Vous, frère, est-ce que vous voulez encore rester là encore 40 ans et participer aux fléaux qui vont venir sur ces dénominations? Nous voulons sortir. Le pays de la promesse est là. Chaque promesse de ce livre nous appartient, la Bible. Le Jourdain veut dire mort. Vous devez mourir à vous-même, au vieil homme et à ses œuvres avant de pouvoir entrer dans le pays. Les gens sont tièdes aujourd'hui. La Bible dit, l'église est tiède. Et autrefois, ils sont en train de tourner seulement autour de la montagne. Ça allait bien pour eux. Ils avaient assez à manger. La manne sortait, descendait du ciel. Tout était bien. Mais ils n'étaient toujours pas encore dans le pays de la promesse. C'est comme ça aussi avec l'église de la Odyssée maintenant. Ils sont bénis, l'église de la Odyssée. Ils sont bénis. Et Dieu leur a donné plusieurs choses. Mais ils ne sont pas encore dans le pays de la promesse. Ils n'étaient pas dans l'état pour pouvoir y entrer. Vous voyez? Et nous devons sortir de cet état qui ne nous permet pas d'y entrer. Et autrefois, justement, le temps est arrivé où Jésus a dit, maintenant vous devez vous détourner vers et aller vers le nord. Ils étaient en train de tourner autour de la montagne. Et bien sûr, qu'est-ce que c'était? Il y avait Moab. Et Moab était une organisation. Bien sûr, Moab au verset 9 de Deutéronome 2. Et il a donné aux méthodistes leur place, aux baptistes leur place, aux pentecôtistes leur place. Rien contre cela. Mais ne vous arrêtez pas à cela. Dites que Dieu te bénisse, mais ne vous arrêtez pas à cela. Allez de l'avant. Souhaitez à tous les bénédictions de Dieu, mais ne vous laissez pas retenir par ces choses. Allez de l'avant, vous. Allez de l'avant jusqu'au jour d'un. Bon, on dit, oh, reste ici, écoute. Non, j'écoute rien. Souhaite la bénédiction de Dieu, mais toi, dis que Dieu soit avec toi, mais toi, va de l'avant. Vous, allez de l'avant. N'allez pas écouter quoi que ce soit. Vous, allez de l'avant jusqu'au Jourdain, car nous sommes en train d'entrer dans le pays de la promesse, en train de traverser la frontière, sous la puissance de Dieu. Ne vous arrêtez pas à la frontière. Jésus-Christ disait, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Vision de grandes choses puissantes doivent avoir lieu dans l'église. Dieu veut restaurer l'église. Il veut la faire entrer dans le pays de la promesse. Mais ils sont en train de tourner autour de la montagne. Autour de la montagne. Ils la connaissent déjà par cœur. C'est une organisation. C'est une montagne d'organisation. Cette montagne-là, c'est une organisation. Hein? Oh frère, madame, nous avons ceci, nous avons cela. Bien sûr, mais vous savez, c'est toujours dans le... vous vous tournez autour d'un même verset. Hein, Ésaü, la grande dénomination. Et Israël s'est fait elle-même une montagne. Un jour, Dieu avait parlé, il avait dit, abandonnez cette montagne. Je vais vous conduire plus loin. Bien sûr que vous avez été bénis autour de ces montagnes, mais maintenant, vous ne savez rien. Sortez d'ici pour que je puisse vraiment vous bénir. Entrez dans le pays de la promesse qui est rempli de miel et de lait. C'est là que je vais vous apporter. C'est ce que l'Église a besoin aujourd'hui. Elle doit quitter cet endroit, de cet état de la Odyssée. Sortir. Quitter cet état tiède. Vous, frères de l'Église pentecôtiste, unitaire ou bien trinitaire, c'est d'abord l'avantage. Vous tous, d'où est-ce que vous êtes? Est-ce que nous ne sommes pas restés assez là dans cette organisation? Est-ce que nous voulons maintenant oublier nos différends et joindre ensemble nos cœurs et nos mains et nos motifs et nos intentions et ensemble aller de l'avant dans l'amour Jésus-Christ en tant que le crucifié, le prêcher et manifester sa victoire et aller de l'avant, prêcher la crucifixion et la résurrection et son retour. Il nous accordera au-dessus de ce que nous demandons et de ce que nous pourrons penser. Vous ne pouvez pas comme ça annuler cette symbole que j'ai dans la Bible. Non, ce qui s'est passé autrefois dans le domaine terrestre avec Israël se passe maintenant dans le domaine spirituel avec l'Église. Autrefois avec Israël et maintenant avec l'Église. Par exemple, Deutéronome 2, verset 14. Et nous sommes maintenant presque à la fin du chemin. C'est le temps que quelque chose se passe. Je veux, moi, traverser le Jourdain pour entrer dans le pays de la promesse. Nous avons vu de belles choses, bien sûr. Nous ne reprochons rien. Mais nous voulons maintenant nous joindre, nous rassembler, nous unir, être ensemble et aller de l'avant. Nous voulons traverser la frontière. Le Josué, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a donné les promesses de Dieu. Il est ici pour nous conduire à aller de l'avant. Josué n'a jamais douté. Non. Il était le général de Dieu. C'est vrai. Il était le général de Dieu. Et il allait de l'avant. Et il a conduit le peuple d'Israël. Et le même Saint-Esprit, le général de Dieu, lui, le chef, il est le même qui était venu à Josué, à Jéricho, alors qu'il lui avait demandé, es-tu un ennemi ou bien appartiens-tu à nous? Et il a dit, je suis le général de l'armée de l'Éternel. Et aucune organisation pourra vous retenir, ainsi dit le Seigneur. Ça, vous pouvez vous l'écrire. Écrivez cela sur un livre, vous verrez si cela est vrai ou pas, dans votre livre. Aucune organisation vous fera entrer dans le pays. Jamais. Mais c'est seulement le Saint-Esprit qui vous fera entrer dans le pays. Et que vous ne l'aimez pas, comme il est dit, sur le Saint-Esprit, sur l'esprit de celui qui a ressuscité dans les morts, habite dans vos corps mortels. Alors, lors de son retour, vos corps seront transformés. Romains 8, verset 11. Verset 14. Oh, ça c'est le motif de mon cœur. Je voudrais voir Jésus. Oh, si je pouvais m'élever, chaque frère, et recevoir, qu'il soit ici et là. Je voudrais, qu'il soit dans l'église de l'Assemblée de Dieu ou bien dans l'église pentecôtiste. Ça prend d'importance. Bien aimés frères, qui est-ce que vous êtes? Venez, Dieu, nous voulons nous unir, nous rassembler. Et Dieu veut nous donner d'aller de l'avant ensemble. Sortez de tous ces différents groupes. Ça n'a pas d'importance qui vous êtes. Sortez, nous voulons joindre nos cœurs. Et les batailles, les disputes, les querelles, les uns contre les autres ont cessé. Alléluia. Ensemble, nous voulons venir. La réconciliation, le pardon, l'union est passée par le Jourdain. Nous voulons entrer dans le pays de la promesse ensemble. Là où nous avons notre possession, que nous entrons en possession de ce que Dieu a promis pour nous. Oh, qui veut venir avec moi? Je suis sur le chemin dans le pays de la promesse. Je suis sur le chemin dans le pays de la promesse. Est-ce que vous voulez aller avec moi? Oublions nos différends et venons nous joindre, nous unir ensemble. Maintenant, frère Branham chante. Et je suis en train d'entrer dans le pays de la promesse. Je me tiens à la frontière dans les deux pays du Canada. Là où mon héritage est, nous levons nos mains et chantons.
Je suis sur le chemin vers le pays de la promesse. Je suis sur le chemin dans le pays de la promesse, par le Jourdain. Oh, qui viendra avec moi? Je suis sur le chemin vers le pays de la promesse. Nous ne voulons rien d'autre que de considérer le Fils de Dieu dans chaque âge. Le Fils de Dieu dans chaque âge. Et qu'il puisse nous conduire dans l'union les uns avec les autres. Nous voulons le rencontrer, vous unitaires, vous les différents groupes, ça n'a pas d'importance. Nous voulons nous aimer, nous serrer les mains et permettre à Dieu de nous unir et de nous préparer ainsi pour son retour. C'est ainsi que nous prétendons marcher sur le chemin qui mène au pays de la promesse. Nous devons mourir, passer par le Jourdain, à nos différends, et trouver un point de rencontre, Golgotha, et aller de l'avant ensemble. Qui ira avec moi dans le pays de la promesse?
Wird mit mir gehen. Oh, fühlt ihr nicht besser?
Ne vous sentez-vous pas mieux? Nous voulons vous montrer quelque chose. J'étais dans l'une des dénominations les plus connues il y a à peu près 3-4 semaines d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais appelé à l'hôtel et 3-4 pécheurs sont venus. Et après, j'ai demandé, est-ce que quelqu'un viendra des croyants pour prier pour ces personnes? Et c'était une église pentecôtiste. Et j'ai demandé que des croyants viennent pour prier pour ces personnes qui sont venues devant. Et personne n'était là pour venir. Et j'ai demandé de nouveau, est-ce que quelqu'un des croyants ne voudrait pas venir pour prier pour eux? J'étais tellement épuisé. Et j'ai demandé de nouveau, est-ce que quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, venir pour prier avec eux? et je ne pouvais pas convaincre aucun des croyants de venir. Oh frère, il y a 40 ans d'ici, si un seul venait à l'hôtel devant, il y avait 50 autour de lui pour prier pour lui et avec lui. Leur cœur brûlait avec le feu de l'amour de Dieu. Si vous parlez des baptistes, moi, il n'y a pas longtemps, j'étais au Kentucky dans une assemblée missionnaire baptiste. Et parfois, on dit qu'ils sont froids et formels, mais ils ne sont pas si formels comme ceux du Nord. Parfois, ils frappent l'un sur le dos, mais ils vont de l'avant ensemble. J'étais là où ma grand-mère était enterrée avec quelques parents et j'avais prêché le retour du Seigneur Jésus-Christ et le baptême de Saint-Esprit là-bas. Et les gens ont commencé à louer et à exalter le Seigneur. C'était loin, on devait aller donc à 30 km éloigné à l'extérieur d'une ville pour aller prêcher. Et j'ai prêché là-bas, ils ont loué le Seigneur et j'ai appelé à l'hôtel. Et je leur disais là-bas, il y avait ma grand-mère, elle était morte dans mes bras. Elle a été enterrée là-bas dans cette ville, dans cet endroit. Et je lui ai dit avant de mourir, je te reverrai là-bas. Et je leur ai dit, pécheurs, venez, Jésus vous appelle. Et ils criaient, oh Seigneur, fais-moi grâce, moi pécheur. À peu près 20 sont venus devant, avant même que je puisse appeler à l'hôtel. Avant même que j'appelle, ils sont venus d'eux-mêmes. Et on devait même manger à 11h, mais on a mangé le soir à 2h du matin de l'après-midi. Et c'était dans une église baptiste. Hein. Je ne parle pas de pentecôtiste, c'était dans une église baptiste. Et maintenant, quand on arrive dans une église pentecôtiste, et les pécheurs donnent leur vie au Seigneur, et personne, j'ai pu convaincre aucun, en tant que serviteur de Christ, j'ai pu convaincre personne de venir pour prier pour eux qui étaient venus devant, pour ceux qui étaient venus devant. Est-ce que j'ai perdu le sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est faux avec moi? J'ai demandé à ma femme, j'ai dit, mais bien-aimée chérie, qu'est-ce que se passe avec moi? J'ai demandé au frère mort. Je lui ai demandé, mais est-ce que je suis devenu fou? Qu'est-ce qui se passe? Comme Agrippa disait à Paul, ton instruction t'a rendu fou. Non, c'est pas possible, non. Quelqu'un doit se tenir pour la vérité. Quelqu'un doit être là. Il y a un grand prédicateur, l'a connu, qui me disait, je crois que tu es un homme de Dieu. Laisse-moi t'imposer les mains et prier pour toi. Tu critiques les hommes à trop, les personnes trop. Tu critiques trop. J'ai dit, frère, crois-tu que moi je critique? Il m'a dit, mais c'est pas ton, ça te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est de prier pour les malades. Je dis, mais c'est pas vrai. Jamais. Dieu n'accorde pas un don seulement pour le poisson et le pain, pour que les gens viennent à cause de la guérison. Non. Il donne des dons et des ministères pour que sa parole soit prêchée, puisse être prêchée. Les miracles, la guérison, c'est seulement pour attirer l'attention des personnes au message qui va suivre. Mais il faut que le message suive. Vous savez qui il est. Et je lui ai dit, tu as un trop grand programme, tu as besoin d'argent. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas de programme. Je peux me laisser conduire par le Saint-Esprit et prêcher la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être pentecôtiste. Ça, je peux le dire à tous, je suis pentecôtiste. J'ai reçu le Saint-Esprit. Pas une organisation pentecôtiste. Ça, c'est éloigné de je suis pentecôtiste par l'expérience de la Pentecôte. Jésus-Christ est mon rédempteur, je l'aime. Et une autre personne connue, grand, dans une organisation, il disait, frère Branham, si tu pouvais seulement faire des compromis sur une petite chose avec nous, nous allons t'envoyer avec un avion personnel aux extrémités de la terre, avec un avion personnel, pour que tu prennes ta parole. Je lui ai dit, tu n'as pas honte de me demander que je puisse faire des compromis avec vous? Si tu crois que je suis un serviteur de Dieu, montre-moi où est-ce que je suis dans l'erreur. Avant de parler de compromis, je lui ai dit, mais comment est-ce que tu peux faire une telle chose et me demander à moi, en tant que serviteur de Dieu, de faire des compromis? Il dit, mais je crois que tu es un serviteur de Dieu, parce qu'il y a pas des années, ma femme était en train de mourir d'un cancer, et dans l'église, tu lui as parlé par le don du discernement, et elle a été subitement guérie à l'instant même. Et je lui ai dit, mais alors, est-ce que tu n'as pas honte de me demander de faire un compromis avec la parole de Dieu. Tu n'as pas honte? C'est ce que les pères ont déjà fait à cause de l'argent et ont manqué. Vous voyez, il faut qu'un ébranlement vienne pour qu'ils deviennent conscients de ce qu'ils font. Je suis sur le chemin, moi, dans le pays de la promesse, par le Jourdain. Je suis sur le chemin dans le pays de la promesse. Et qui viendra avec moi, marchera avec moi, qui marchera, entrera avec moi dans le pays de la promesse. Je suis sur le chemin dans le pays de la promesse. Je suis sur le chemin dans le pays de la promesse. Oh, qui viendra et ira avec moi dans le pays de la promesse? Je me demande maintenant, pendant que nous sommes tous dans le recueillement, seulement le son de la musique est à entendre, du cantique à entendre, est-ce qu'il y a un pécheur ici qui n'a pas encore expérimenté de ce que j'ai parlé, et croit que c'est la vérité, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que la colère de Dieu l'a frappé, et qu'à Golgotha, il est mort pour nos pécheurs. C'est la colère de Dieu qui l'a fait mourir. Il est mort à votre place. Il est mort votre mort pour que vous vous soyez sauvés. Il a reçu à votre place la colère de Dieu. Je vous demande de venir à l'autel pour être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Si vous êtes membre d'église et que vous n'avez rien d'autre en dehors de votre organisation, même si vous êtes pentecôtiste, méthodiste, baptiste, catholique, juif ou quoi que vous soyez, orthodoxe, quoi que vous soyez, si vous connaissez seulement l'organisation dans laquelle vous êtes et que vous n'êtes pas encore transformé dans votre corps, dans votre cœur, dans votre être intérieur, et que sans compromis, vous suivez le Seigneur, et que vous n'avez rien à voir à faire avec le monde, mais vous êtes mort et que le monde est crucifié pour vous et vous pour le monde, et que en Christ vous voulez vivre. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience et que vous ne voulez pas venir à l'hôtel, vous qui n'avez pas reçu le Saint-Esprit et vous qui voulez le recevoir, est-ce que vous ne voulez pas venir pendant que nous chantons, vous tous, les pèlerins qui avec nous veulent entendre ce cœur et être d'accord avec la parole de Dieu? Venons, allons ensemble dans le pays de la promesse. Je suis sur le chemin. Je vous invite tous à venir. Ça dépend de vous ce que vous décidez. Je suis sur le chemin vers le pays de la promesse. Que Dieu vous bénisse, frère. Oh, qui viendra et ira avec moi pour entrer dans le pays de la promesse? Je suis sur le chemin dans le pays de la promesse. Je suis sur le chemin dans le pays, vers le pays de la promesse. Je suis sur le chemin du pays de la promesse. Qui viendra avec moi? Dans le pays de la promesse, pour entrer dans le pays. Frère Branham chante. Quand est-ce que je verrai la face de mon Père? Et que je me reposerai dans son sein? Je veux vous dire, pendant que nous chantons maintenant, je me tenais là à Jeffersonville, il y a 31 ans d'ici, dans mon premier réveil, et nous avions chanté ce cantique qui dit que au bord du Jourdain, avec la tempête, nous sommes arrivés et nous avons vu à la frontière du pays qui est beau, et là-bas est mon héritage. Et l'après-midi, j'ai baptisé 500 frères et sœurs en tant que prédicateur de l'église baptiste. Et subitement, J'ai vu quelque chose alors que j'étais en train de baptiser la septième personne. Je regardais et la colonne de feu est descendue et la voix a retenti tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme avant la venue du Christ, ainsi que la première venue du Christ, ainsi que ton message ira dans le monde entier comme précurseur du retour du Christ. Et c'est ainsi que toute la presse et tous les journaux s'est allé jusqu'au Canada. Tout cela a été publié et la presse partout a été propagée. Et voilà, frère, ces promesses sont vraies. Ce cantique qui dit, je me tiens au bord du Jourdain et je regarde déjà dans le pays glorieux. Oh, nous voulons entrer dans le pays de la promesse. Je me tiens dans le Jourdain et je regarde dans le pays. Ici, il y a des personnes qui veulent trouver Dieu, qui veulent entrer dans le pays de la promesse. Peut-être que vous, prédicateurs, vous, frères, qui avez un fardeau dans votre cœur pour les autres, est-ce que vous ne voulez pas venir aussi vous placer là? Et vous qui voulez aussi recevoir et accepter Christ, est-ce que vous ne voulez pas aussi venir? Venez, tenez-vous là et autour de la table de l'autel. Femmes, hommes, enfants, ils veulent, en tant que sauveur personnel, accepter Christ Jésus. Oh, nous voulons nous tenir là, au bord du Jourdain. Moïse était là et il regardait dans le pays, mais il lui a pas été permis d'entrer parce qu'il avait manqué. Josué a reçu l'ordre de Dieu et est entré dans le pays avec le peuple. C'est ainsi que la grâce de Dieu nous fera entrer dans le pays. La grâce de Dieu. Oh, en ce bord du Jourdain, plein de tempêtes. Dans la tempête, aux jeunes et âgés sont venus à l'autel. Nous regardons dans le pays de Cana, glorieux et beau. Là-bas est mon héritage. Je suis sur le chemin dans le pays de la promesse. Je suis sur le chemin dans le pays de la promesse. Oh, qui viendra et ira avec moi? Je suis sur le chemin dans le pays de la promesse. Soyez tous dans le recueillement pour un petit moment. Je voudrais parler, m'adresser à des personnes qui sont venues. Amis, aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit parler avec vous, qui a dû parler avec vous. Il doit parler avec vous pour prendre cette position. Jésus-Christ a dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a reçu la vie éternelle. Il y a seulement une seule forme de vie éternelle. Et c'est la vie de Dieu lui-même, Zoé. Et parce que vous vous êtes levé de vos chaises et vous êtes venus devant, cela montre qu'un esprit vous a conduit ainsi. Vous êtes convaincu que vous étiez dans l'erreur. Le Saint-Esprit vous a convaincu du péché, vous a conduit à prendre votre position devant Dieu. Celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les saints anges. Ça, c'est la promesse. Il ne peut pas la reprendre, il ne peut pas l'annuler, c'est sa promesse. Il ne peut plus annuler cela. Il est ici pour vous accorder ce dont vous avez besoin. Parce que vous avez pris votre position pour lui, il prendra sa position pour vous en ce jour. Il a pris votre place et maintenant vous êtes prêt à reconnaître que vous avez vécu d'une manière qui n'était pas correcte. Et vous êtes prêt à croire à lui et à recevoir ce que Dieu vous a préparé. C'est le salut. Écoutez sa parole. Jean 5, verset 25. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a reçu la vie éternelle. Dieu. Maintenant, vous vous tournez à Dieu. Ça, c'est déjà une Maintenant, Dieu vous accorde la conversion. Ça, c'est une partie du Saint-Esprit qui vous accorde la conversion. Maintenant, le deuxième pas, c'est la sanctification. Toute la souillure sera ôtée. Et le troisième pas, c'est le baptême du Saint-Esprit, d'être baptisé dans le corps de Christ. Et ensuite, vous connaissez personnellement la puissance de Dieu. C'est pour cette raison que vous êtes ici debout, ici devant. Vous avez fait le premier pas pour accepter Jésus-Christ en tant que votre sauveur personnel. Ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est une œuvre du Saint-Esprit en vous. Je voudrais que toute l'Église couvre la tête. Nous prions. Père Céleste, ces personnes-là sont ici, ils ont honte de leur vie passée. Ils se tiennent ici et ils ont écouté ta voix. Et ils ont reconnu qu'ils ont fait ce qui n'est pas correct. Et ils viennent pour te recevoir en tant que sauveur personnel. Ils viennent ici pour être justifiés par toi. Justifiés par la foi. C'est ainsi que nous avons reçu la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5. Je te crois, Seigneur. Je crois tes paroles sont vraies. Comme je me tiens ici en tant que ton serviteur, l'un d'eux. Et j'intercède pour eux, pour ces personnes. Et je te rappelle ce que tu as dit. Ils sont ici. Ils sont ici, ils se sont levés, ils sont venus devant. Car ils sont convaincus que tu es le Fils de Dieu. Et tu es mort pour leurs péchés. Et ils veulent accepter ta grâce. Plein de pardon, ton pardon plein de grâce. C'est possible de le recevoir car tu l'as promis et ça leur appartient. Ils le croient. Ils croient et ils sont venus pour l'expérimenter personnellement car tu as dit celui qui a honte de moi devant les hommes, tu auras honte de lui devant le Père et les saints anges. Mais celui qui te confesse devant les hommes, tu le confesseras devant ton Père et les anges et les saints anges. Seigneur, ils t'appartiennent. Ils sont convaincus d'être faux. Et par la parole de Dieu, ils sont ici. Et ils avouent qu'ils étaient faux et qu'ils veulent recevoir le pardon. Je prie pour leurs âmes. Je te les remets.
Au secours.